Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Métier les Canafis, ça va bien et toi?
Ça va plutôt pas mal. Sache que ce matin, j'ai failli mourir.
C'est vrai.
Ma veste en jeans, en blue jeans, s'est fait attraper dans l'escalator.
Ah merde.
Ouais, j'étais en train de monter et en fait, ça m'a attrapé la veste. Et je suis parti en arrière. J'ai eu très peur.
Putain,
du coup, j'ai tiré, j'ai arraché ma veste, mais je ne suis pas mort. Donc du coup, petite anecdote du matin. Pour de vrai, j'ai vraiment flippé.
Putain, c'est chaud.
Allez, est-ce qu'on va flipper dans cette émission? Parce que au programme de cette semaine, Nico, tu vas tout d'abord nous parler du retour de la série Silent Hill. La peur est à propos. Un retour qui s'opère sous une forme pour le moins étrange avec le titre Silent Hill Ascension. Est-ce un film? Est-ce un jeu? Est-ce une série? Est-ce un free-to-play? Est-ce une arnaque? Nico, tu vas tout nous expliquer. Puis dans la seconde partie de l'émission, on va replonger dans notre enfance, du moins pour une partie d'entre vous, hein, celles et ceux qui, comme nous, se dirigent doucement mais sûrement vers les 40 printemps. Nous allons donc parler ensemble de Goldorak, le festin des loups, un jeu Microïds qui sort cette semaine mais qu'on a déjà pu terminer. Vous retrouverez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur l'émission, alors non pas de la semaine dernière, mais la dernière, parce que la semaine dernière c'était un Third Strike EX sur Spider-Man 2, mais le dernier est d'alerte. Nous parlions d'Alan Wake 2 et son format de distribution uniquement numérique. Sachez depuis que nous avons des résultats, une annonce d'Epic Game Store comme quoi l'Epic Game Store n'est toujours pas rentable après 5 ans d'exploitation, avec néanmoins d'objectif de rentabilité à l'année prochaine, en 2024. Mais à ce jour, avec tout ce qu'ils ont mis en place, les jeux gratuits, le share, le partage de revenus, etc., etc., les différents procès qu'ils ont aussi sur le dos, l'Epic Game Store n'est pas rentable. Tout ça pour dire un retour sûr, pour dire que c'est une raison de plus de comprendre, en fait, sans forcément abonder, la décision du 100% démat. Voilà, on a un avis perso, mais l'idée, c'est pas dire on est pour ou contre le démat, c'est pour dire Epic et l'Epic Game Store, ils ont fait ce choix qui peut être explicable.
Ouais, c'est vrai que on parlait de la situation compliquée d'Epic qui a dû licencier, alors que Fortnite est quand même un truc qui rapporte plein de thunes, mais comme tu l'as dit, il y a plein de domaines où ils ont un petit peu balancé l'argent par les fenêtres, et quand tu veux créer un concurrent à Steam en partant de rien, effectivement, ça demande un investissement. Alors quand tu montes un truc aussi costaud et que tu cherches une rentabilité sur 5-6 ans, il y a rien de déconnant là-dessus, hein, donc l'objectif rentabilité 2024 était pas déconnant, c'est juste qu'ils semblent pas partis pour l'atteindre, et
ils ont peut-être mis la seconde, et ça avec deux en 100% des maths peut être une petite explication de cette
dynamique. Ouais, quand c'est un jeu que t'as financé qui exclut ton store, tu comprends un petit peu plus leur logique. Après, on est d'accord ou pas, mais voilà, on comprend les
ça
arguments.
Ça vous a fait réagir en tout cas.
C'est vrai.
Autre décision politique, cette fois non pas de Epic mais de Sony, qui change de braquet concernant ses jeux Game as a Service.
Ouais, on en faisait un point il y a quelques émissions sur un peu la nouvelle stratégie de Sony, il faut voir où ils en étaient. Et parmi elles, on disait que l'objectif de débouler en force sur le jeu service semblait un petit peu compliqué. Et là, on vient d'avoir une confirmation donc de Hiroki Totoki, qui est un peu le président par intérim depuis que Jim Ryan a annoncé son retrait, et qui est, je crois, le numéro 2 de chez Sony au global, hein, qui vient de déclarer en fait que sur les 12 jeux services qui étaient prévus d'ici mars 2025, donc c'est dans pas si longtemps que ça, finalement ce nombre sera réduit de moitié. Donc on voit que Sony, ils sont en train de mettre un petit coup de frein à leur politique. On commence à comprendre en sous-texte que finalement c'est peut-être ce qui a causé aussi le départ de Jim Ryan, c'était vraiment cette stratégie-là, et que si ça explique aussi peut-être la difficulté des studios à sortir des jeux et à c'est un petit peu grippé la cadence et le rythme qu'ils avaient jusqu'à maintenant et qu'on a vanté sur toute la génération PS4. Donc voilà, on commence à voir les premiers ajustements de l'ère post-Jim Ryan et on commence à comprendre aussi peut-être où ça coinçait, quoi.
Et du fait que Bungie sont littéralement des fossoyeurs. Donc Bungie qui a été racheté plusieurs milliards d'après ce qu'on sait, fait une sorte d'audit auprès des différents, justement, les games as a service, tout ça, pour lesquels ils sont spécialistes. Et ils étaient un peu mécontents. Et donc, vu la thune que Sony a mis sur le studio, je pense qu'ils ont l'oreille des huiles du constructeur.
Bungie, c'est un peu le champion de Sony sur ce domaine, qui a été acheté pour guider un peu tout le monde.
Pas pour rien, quoi.
Et on voit que même chez Bungie, il y a des soucis aussi avec des licenciements qui sont arrivés un peu par surprise. Parce que, apparemment, leur dernière extension n'a pas rencontré le succès escompté et ils sont un petit peu en retard sur la prochaine. Donc, quand celui qui est censé montrer l'exemple, un petit peu de l'aile, tu peux te dire que ça s'annonce compliqué pour tout le monde.
Dernier retour sûr, cette fois, nous avons parlé de Jason Schreier, un journaliste que j'adore, hein, par-dessus tout. Je présente, c'est ironique, je peux pas le saquer. Mais en retour sûr, on a déjà parlé de lui, on a déjà parlé de ses sorties. Il a, très récemment, en fait, fait une autre sortie sur le trailer de GTA 6, en tout cas le futur trailer de GTA, l'annonce même.
Ben, il y a eu une actu sur GTA 6, donc un thread officiel qui confirme que le jeu va être présenté début décembre à travers un trailer. Alors, ce qui peut paraître anodin aux yeux de certains, je trouve qu'il y a quand même deux choses importantes à dire là-dessus. C'est déjà la communication de Rockstar, je trouve ça un petit peu étrange d'annoncer ça dans un thread sur Twitter, sans flonflon ni trompette, rien du tout. Est-ce que, bon, voilà, quoi, c'est pas très spectaculaire.
Mmh. Et peut-être une raison.
Ouais, bah après non, mais en fait, la deuxième truc, c'est que voilà, c'est Schreier qui a annoncé quelques heures avant que c'est les deux informations en fait que le jeu allait être confirmé puis présenté en vidéo début décembre. Et là aussi, on peut se poser la question de l'intérêt de couper l'herbe sous le pied là-dessus à ce niveau. Tu vois, c'est vrai que Schreier, on le connaît pour ses articles qui dénoncent des conditions de travail difficiles ou des cas de compliqués dans l'industrie. Et là, on est dans le rôle du journaliste, je trouve, hein, de dénoncer ce genre de choses. Quand t'as des infos aussi sur des jeux, des services, des consoles en amont, très en amont, c'est aussi intéressant de les partager. Mais couper l'herbe sous le pied d'une annonce juste quelques heures avant, quel était l'intérêt? Son papier en plus, il fait quoi? Il fait 4-5 lignes. Enfin, je me demande quel est un petit peu l'intérêt journalistique là-dessus.
Ouais, tout simplement, moi je me pose la question, est-ce que c'est du journalisme? Lui qui s'est fait connaître, comme tu l'as dit, par ses enquêtes, par ses différents ouvrages, qui sont même traduits en français, pas chez nous, mais on vous conseille de vous intéresser, c'est très très intéressant. Là, il y a une valeur journalistique, il s'est fait connaître pour ça. Là, de faire un leak, tout simplement, pour dire j'étais au courant avant, je sais pas. Moi,
Ouais, ce qu'on a déjà parlé, mais gâcher une annonce de jeu, c'est toujours un peu compliqué. Pour le coup, là, l'annonce n'était pas très spectaculaire, donc c'est pas forcément gênant. Et il a bien précisé que les plans de Rockstar étaient d'annoncer ça dans le thread et tout. C'est pas, les plans n'ont pas été modifiés par rapport à son article. Donc là aussi, on peut aussi se demander, côté ambition de Rockstar, d'avoir fait ce simple thread pour balancer ça comme ça.
Bon, c'était une réponse peut-être pas pour reconfirmer, quoi, pour pas que justement ça soit lui qui ait la primeur du truc.
Enfin, lui, d'après ce qu'il dit, hein, c'est qu'il même il aurait eu accès peut-être potentiellement au thread, c'est que c'était les plans de Rockstar en fait, et son article n'a pas changé les plans.
Ouais. Après, tu vois, c'est pas une question encore une fois de prise de position comme sur Epic en disant t'es pour, t'es contre. C'est lui, il a fait ça. Quel est l'intérêt? Quelle est la valeur de son propos? Hormis se faire mousser à titre très personnel, il a aussi il travaille chez Bloomberg aujourd'hui. Lui, c'est une figure montante du journalisme de jeux vidéo, même du milieu du jeu vidéo, et c'est quelqu'un qui est en train de s'auto-brander. Comme on pourrait critiquer par exemple Jeff Keighley, qui n'est plus journaliste mais qui est devenu un présentateur. Aujourd'hui, c'est le Nagui du jeu vidéo. Aujourd'hui, il a plus de ou n'importe quoi. Je veux dire, il apporte plus de valeur journalistique. Jeff Keighley, il arrive, il présente des cérémonies qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'ai pas l'impression moi qu'il se présente en tant que grand enquêteur. James Schreier, c'est ce qu'il est. Lui, il est un journaliste, il est un enquêteur, et ce qu'il apporte, c'est très important. Et là, en fait, il est en train de se vendre comme une marque. Là, Jason Schreier Touch, comme on peut avoir dans différents sports, en NBA, on a le Vosges qui fait des annonces avant tout le monde. Bref, là, il est en train de se vendre, s'auto-brander. Et moi, ça me dérange, quoi. Enfin, je dirais là, et je vois pas pourquoi il fait ça en train, enfin, ça n'a, et c'est pas être ni pro-constructeur, ni pro-éditeur en disant, oh, c'est dommage les pauvres éditeurs, ou oh, c'est dommage les pauvres développeurs, on leur a coupé l'herbe sous le pied, ce qui est vrai, mais c'est même pas mon propos, moi, c'est, qu'est-ce que c'est que tu fais là? Enfin, c'est ça rime à quoi? Moi, c'est ça un petit peu qui me dérange. Là-dessus, voici et voilà pour ces trois retours sur très politique, très actu. On va un petit peu se détendre, en tout cas un petit peu s'effrayer.
Est-ce qu'on est
toujours sur la peur et l'effroi? Nico, tu vas nous parler de Silent Hill Ascension.
Ouais, on se souvient, donc il y a eu une petite présentation vidéo, c'était en octobre 2022, donc il y a un peu plus d'un an, autour du revival de la saga Silent Hill, donc avec plusieurs projets qui ont été annoncés. Et parmi eux, il y en avait un qui était un petit peu mystérieux, Silent Hill Ascension, mi-série, mi-jeu, comme tu disais tout à l'heure. Et finalement, c'est le premier à voir le jour, donc ça paraissait intéressant d'en parler. Donc ce projet-là, il est chapeauté par Genvid, la société Genvid. Hein, c'est un studio qui a été fondé en 2016 par Jacob Navok. Alors c'est un mec qui est pas super connu, mais qui a quand même bossé dans l'industrie et qui est notamment passé par Square Enix. Et il a notamment chapeauté le fameux division Shinra Technology, je sais pas si tu te souviens.
Non.
C'est leur truc de cloud gaming pour les professionnels, je crois. Voilà, donc ils ont donné le nom d'un méchant de FF7 pour cette division qui a pas fait long feu, donc c'était toujours un petit peu bizarre. Alors, gène vide, à le moment culture, c'est la fusion de deux mots latins, un gène pour naissance, et vide pour le verbe voir, regarder, quoi.
Okay.
Ils ont quand même un concept, hein, une idée, une marque un petit peu forte, qu'ils appellent le Massively Interactive Live Events, donc, c'est l'acronyme MILES. Okay. Et donc, c'est tout bêtement ce qu'ils vendent entre peu le croisement entre jeux vidéo et séries télé. Et là, je mets des quotes, le meilleur des deux mondes, selon eux. et avec soutenu par vraiment une approche communautaire et live en direct streaming là-dessus. C'est vraiment leur concept fort qu'ils ont déjà éprouvé dans des jeux qu'ils ont déjà lancés. Donc il y a eu le This is Heroes United, j'avais entendu parler, Borderlands Ecovision Live, pareil, j'avais entendu parler, et plus récemment The Walking Dead Last Mile. Donc tu vois, ils ont cette idée, ce concept, et qui vont décliner a priori autour de grosses franchises quand même. Et là, c'est le tour à Silent Hill un petit peu, quoi, de passer à la moulinette, quoi. Mm-hmm. Alors ce projet, il est quand même annoncé, qui est développé un peu en soutien avec plusieurs acteurs, dont Behavior Interactive, qui est le développeur des Dead by Daylight. Alors nous, c'est pas du tout notre cam, c'est un jeu d'horreur multijoueur asynchrone, mais qui a l'air de cartonner,
qui fonctionne très
qui
bien,
qui fait des collabs tout le temps. Enfin, le jeu, il a une longévité de ouf. Et il y a eu notamment des collabs Silent Hill à une époque. Donc lui, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un petit peu nébuleux de savoir qui fait quoi, serait un petit peu le développeur du projet, un peu, tu vois, les mains dans le cambouis. Et t'as également un soutien de Bad Robot Games. Alors Bad Robot, on connaît, c'est la société de production de J.J. Abrams. Et ils ont lancé une division jeux vidéo assez récemment. Et eux seraient plus sur le côté direction artistique des environnements, direction artistique des monstres et modélisation des monstres, et aussi tout ce qui touche un petit peu au sound design. Donc on voit, voilà, c'est chapeauté avec plusieurs studios, mais c'est quand même Genvid qui a le côté concept et qui va itérer là-dessus, quoi. Donc déjà, premier truc, est-ce que ça fait peur? Ben oui, parce que quand tu lances l'appli, ça fait peur pour des mauvaises raisons. Alors je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais montré Ever Crisis, donc l'appli du jeu FF7. Oui. Quand tu l'ouvres, t'as des pop-up partout, des notifs. Ben là, c'est exactement la même chose. Okay. T'es notif en rouge, des pop-up dans ta tête. Vraiment, tu te sens un petit peu agressé avec une interface qui est loin d'être claire. Ensuite, ça se passe comment concrètement? Donc une fois que t'as chopé l'appli, donc c'est smartphone et tablette, ou alors que tu vas sur le site web dédié, bah tu crées ton compte et tu te crées un avatar. Donc voilà, on est un petit peu dans le truc chelou. Tu verras pourquoi.
Okay.
Et à partir de là, en fait, chaque jour, à heure fixe, tu auras accès à une diffusion de contenu en direct chaque jour entre 8-10 minutes à peu près. Donc le contenu qui sera fourni. Ce contenu, c'est un petit peu l'équivalent de cinématique de jeux vidéo en 3D. Donc si tu regardes une scène cinématique de jeux vidéo en 3D, comme tu peux l'avoir par exemple du Quantic Dream avec des gens qui discutent, avec parfois des scènes, séquences un petit peu plus action. Et tu vas suivre deux histoires, en fait, en parallèle. Donc, celle d'un côté aux US et celle d'une secte un petit peu chelou. Et en fait, qui voit une de leurs adeptes mourir pendant une cérémonie de façon un petit peu mystérieuse. Okay. Et de l'autre, c'est une famille en Europe de l'Est. Alors vraiment, avec tous les clichetons associés, hein, c'est vraiment les mecs qui, je sais même pas s'ils ont l'eau et l'électricité, quoi. Et là, t'as une mère de famille qui était un petit peu malade et acariâtre, t'sais, et qui succombe, semble-t-il, au mal qui la ronge. Mais on se demande si, peut-être, est-ce que le mari ne l'a pas aidé un petit peu? On va voir, on sait pas trop. Donc, ce qui est original dans ce concept, c'est que c'est diffusé en direct, en fait, et que ça va venir solliciter les spectateurs comme part active du projet. Donc, c'est-à-dire que toi, quand une fois que tu t'es inscrit, tu vas être sollicité régulièrement pour trancher par rapport à des choix qu'on te propose.
D'accord.
Donc, à chaque fois, c'est une sorte de question, un sondage à trois choix qui sera proposé en amont de la diffusion de l'épisode qui sera consacré. Il y a toujours au moins 24 heures d'écart entre le sondage et la résolution. Alors, je t'en cite un, moi, c'était par exemple, est-ce qu'une mère doit gronder son fils pour avoir mordu un camarade de classe?
Est-ce mais c'est des questions un peu générales.
C'est genre, tu vois un épisode et tu vois, on dit, ah là là, Micheline, ton fils, il a mordu son pote au collège. Faut au collège, non, j'espère qu'au collège, ils arrêtent de se mordre. Et du coup, la résolution de ça, tu l'auras dans d'autres épisodes et on va te dire, mais qu'est-ce qu'elle devrait faire, Micheline? Est-ce qu'elle doit gronder son gosse? Est-ce qu'elle doit lui confisquer ses jouets? Ou est-ce qu'elle doit rejeter la faute sur l'autre élève? Alors là, c'est une décision, tu te dis, c'est un enjeu, on s'en fout un petit peu. Mm-hmm. Mais t'as quand même, voilà, des décisions qui sont un petit peu classées par ordre, or, platine ou quoi, en fonction de leur importance, un petit peu dans le scénar, quoi. Parfois, dans ce contenu diffusé, tu auras des séquences d'action, en fait, qui vont là demander aux spectateurs, joueurs, d'accomplir des QTE pendant des séquences d'action. Donc, quand souvent, le personnage, il est aux prises avec des monstres.
Okay.
En gros, c'est les scènes un peu d'action, comme tu connais. Le mec, il se retrouve dans le monde altéré de Silent Hill. Il y a un monstre qui le poursuit. Et là, ça va demander à tous les gens qui regardent en direct de faire des QTE pour essayer de sauver la personne en question. Alors, ça va comptabiliser les réussites et les échecs des gens qui regardent, avec une jauge qui va un petit peu, voilà, venir pencher d'un côté ou de l'autre pour valider ou pas le destin un petit peu du héros. Alors le premier souci avec tout ça, c'est que si tu vis pas aux US, bah cette diffusion en direct, c'est à 3h du mat pour nous, donc c'est, je pense, la pire heure possible, hein, parce que c'est jamais tu te dis je me lève tôt ou je veille, c'est 3h du mat, c'est pile le moment bien relou, quoi.
On n'est pas la cible, c'est les
donc,
US.
Donc voilà, les US, ça reste quand même la population privilégiée là-dessus. Alors pour apporter un peu plus d'infos, j'ai fait appel à quelqu'un qui n'a pas hésité à sacrifier ses nuits pour la science. Et donc cette personne-là, ben, c'est Shambhala, peut-être que vous connaissez sur notre Discord, mais c'est Anthony Fournier, surtout, hein, l'auteur de notre bouquin Death Stranding et d'autres projets dans les tuyaux. Lui, voilà, il a joué le jeu la nuit, et il se connecte en direct pour suivre un petit peu ça. Et il m'a apporté des précisions un petit peu intéressantes qui sont plutôt cool.
Okay.
À savoir, par exemple, que ces séquences de QTE, comme je disais, les séquences un peu d'action, ben, au début, il y en avait un petit peu, il y en avait beaucoup plus, en fait. Et là, récemment, leur fréquence a été assez réduite et elles sont beaucoup moins longues parce qu'au début, apparemment, ils avaient abusé, elles étaient très très longues et très très cheloues, quoi.
Okay.
Et là aussi, c'est qu'en fait, tu te rends compte que ces séquences, ben, c'est en fait plus ou moins toujours les mêmes, sauf qu'avec un perso différent. Alors, il y a quelques variations, c'est-à-dire que le perso, par exemple, au lieu de trouver une baramine, il va trouver un gun, mais c'est toujours avec une espèce de même chorégraphie, de même séquence, même mise en scène, à quelques exceptions près, quoi.
Okay.
Et il y a même une fois, il m'a dit qu'il y avait une séquence qui avait été diffusée en direct, qui ne correspondait pas au choix qui avait été fait par les gens, et donc ça avait râlé, mais ils se sont un peu rattrapés après, en le diffusant dans le replay. Parce que, effectivement, pas de panique, hein, si vous pouvez pas suivre en direct l'expérience, tu peux rattraper le contenu en replay, voilà, comme à la télé, un petit peu. Tu loupes Koh-Lanta, tu mates le replay derrière. Et même les votes, tu pourras les faire direct sur l'appli et tout, sans forcément être présent au moment de la diffusion précise. C'est-à-dire que tu vois, t'as genre les trois votes du moment, ben, tu vas participer et tu votes un petit peu.
Ça servira.
Ça servira après, tu feras partie, toi aussi, du pool. En fait, le vote, il est pas effectif sur le moment. C'est-à-dire que, t'as au moins la décision 24 heures en amont où tu vas pouvoir voter, et quand le vote est clos, après t'as l'impact. Donc t'as pas à voter pour une décision sur le moment, en fait. C'est toujours des trucs que t'anticipes, quoi.
C'est pas clair, quand même.
C'est pas clair, c'est compliqué. Mais tu vois, on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Et donc t'as ce contenu qui est diffusé tous les jours. Donc c'est 8-10 minutes, je dis à peu près. Et donc à la fin de la semaine, t'obtiens, en gros, un épisode d'environ 50 minutes.
Okay.
Donc avec tout le résumé, le déroulé de la semaine. Et ensuite, cet épisode, tu peux le voir sous sa forme. Alors je dis monté, mais c'est juste les séquences mises bout à bout, hein. Mais hors de la couche jouable, en fait, comme vraiment un épisode d'une série, mais juste qui sera en 3D, tu peux ensuite le visionner sur ta télé, par exemple, dans le service Sony Picture Core de la PS5, qui est arrivé récemment. C'est l'espèce de pseudo Netflix un peu de Sony.
Okay.
Et donc, tu peux télécharger ce truc-là dans ton truc vidéo de Sony, et t'as accès à la série là-dessus, quoi. Donc, ça peut être considéré comme le meilleur moyen de découvrir la série, mais toute la surcouche interactive, là, tu la fous complètement dehors, quoi.
D'accord.
Et donc, ce contenu-là, ben, en fait, il est prévu pour durer pendant 16 semaines.
Okay.
Donc, 16 semaines pour, au final, 16 gros épisodes.
Ce qui est costaud, quand même.
Ce qui est même ambitieux.
16 fois 50 minutes, quoi.
Ouais, tu vois, les séries aujourd'hui, c'est souvent 8-10 épisodes. Là, t'auras 16 épisodes pour ce qu'ils appellent la saison 1. Donc, c'est quand même costaud, quoi.
Il y a un gros truc à la fin, un reveal, quelque chose qui va sortir. Tu m'en dis plus, j'ai hâte.
On entame la troisième semaine, donc j'en parle très très early de ce truc-là.
Okay. Mais c'est bien, il faut qu'on comprenne déjà et qu'on puisse rattraper.
C'est pas dit qu'ils aillent jusqu'au bout, hein, parce que faut voir si ça fonctionne aussi, parce qu'on va arriver dans le second souci un petit peu, c'est toute cette surcouche communautaire, en fait. C'est-à-dire que quand t'es sur l'appli ou sur le site et que t'as cette séquence qui est diffusée, ben t'as toute une interface en plus qui est super envahissante et relou, avec notamment un chat, en fait. Donc tu te dis, je mate un truc un peu horrifique et tout, et en fait t'as un chat.
Okay.
Donc évidemment, c'est parti en couille immédiatement. Donc le chat aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, c'est que tu peux juste utiliser des emotes pour l'utiliser, donc tu peux pas écrire toi-même, c'est juste des emotes, mets des têtes rigolotes et compagnie, quoi. Parce qu'évidemment, le chat, c'est parti en couille direct, quoi. Ensuite, pour voter pour chaque décision, comme j'ai expliqué, en fait, tu vas utiliser ce qu'on appelle des points d'influence.
Mm-hmm.
Donc, c'est-à-dire que tu votes pas une fois, c'est pas comme quand tu vas voter pour la présidence.
T'as pas droit à un vote,
c'est pas un vote, bulletin secret ou quoi. C'est que tu as ce qu'on appelle des points d'influence, et tu pourras voter autant de fois que te permet tes points d'influence. En gros, un vote, c'est 200 points d'influence. Donc, si tu as 1000 points d'influence, tu peux voter 5 fois, quoi.
D'accord.
Donc, ces points d'influence, tu vas les gagner en jouant normalement à l'aventure, hein, mais tu peux aussi les récupérer en participant à des mini-jeux. T'as une section dédiée sur l'appli mini-jeux, et là, on est dans le truc le plus éclataxe possible, hein, c'est-à-dire que c'est genre du pseudo match 3, tu sais, du taquin quand tu dois déplacer les trucs. C'est des jeux que même en maternelle, je pense qu'ils ont arrêté de les proposer parce qu'ils se rendaient compte que ça rendait les gens cons. Donc, c'est vraiment le niveau zéro, c'est bien, bien naze. Et évidemment, tu peux aussi te procurer des points d'influence en payant. Donc voilà, tu peux avoir acheté pour 6€, tu as 6000 points d'influence. Pour 12€, tu en as 12600. Pour 24€, 26400 points.
Mmh.
Et là, tu commences à avoir le truc insidieux, c'est-à-dire que ben en gros, si tu payes pour avoir des points d'influence, tu auras plus de poids que des mecs qui jouent le jeu normalement.
Oui.
Et donc ton vote peut avoir plus d'influence. Là-dessus, ça commence à devenir un peu dégueulasse. Surtout que encore mieux, hein, tu peux te procurer le season pass à 24€.
OK.
Et là, qui donne accès a des récompenses, donc, dont des points d'influence, évidemment, mais aussi des emojis, de quoi customiser ton avatar et tout. On est vraiment sur le pass de combat qu'on connaît dans Fortnite et tout, avec ta progression en fonction de voilà, tes actions. Tu sais déjà ce que tu vas débloquer au fur et à mesure. Donc, on est quand même dans une surcouche jeu-service un petit peu d'aujourd'hui, hein. Mais c'est pas fini aussi, parce que tu as même, donc, tes personnages, tu vois, qui sont... il arrive des trucs pas cool, et donc t'as les séquences de QTE, ah, ils en chient, c'est compliqué. Si les joueurs se chient les QTE, bah, le perso, il commence à être, tu vois, d'avoir sa barre un petit peu, voilà, ça va vaciller. Et ce qu'ils appellent, en fait, une jauge un peu d'espoir pour le personnage. Et plus sa jauge est basse, plus il risque de crever, en fait, dans l'histoire.
Ah, c'est intéressant, ça. Il peut mourir pour de vrai?
On va voir, c'est pas encore acté là-dessus. On va voir comment ça se développe. Mais toi, si tu dis, bah, lui, là, je l'aime bien, je vais essayer de l'aider. Et donc, tu peux participer aussi à des mini-jeux pour augmenter sa jauge d'espoir.
D'accord.
Et donc, là aussi, t'as des mini-jeux tout aussi éclatés. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si t'as pas le Season Pass, t'as pas accès à tous les mini-jeux, évidemment.
Tu t'amuses moins, du coup.
Tu t'amuses moins, mais t'es plus riche. Et donc, tu vas avoir ces mini-jeux un peu nazes, quoi. Et là, tu me dis, mais attends, mais pourquoi tu crées un avatar? Pourquoi tu le custom? Pourquoi tu gagnes des lunettes de soleil ou des vestes?
J'allais te le demander.
Mais parce que, en fait, quand tu peux apparaître en caméo dans l'histoire.
Oh. Gros, comment est-ce possible?
Les délires aussi. En fait, là aussi, dans le volet, t'as le truc pour voter pour les décisions et t'as aussi un concours de caméo. Donc, en gros, c'est que tu te dis, ben, j'ai envie d'apparaître dans le jeu. Alors, tu peux apparaître comme un perso secondaire qui aura des dialogues, qui a une importance dans l'histoire, ou bien juste en simple figurant, c'est le mec qui passe en fond derrière. Et pour ça, ben, là aussi, tes points d'influence, ils vont te servir à acheter des tickets. Et en fait, tu vas miser tes tickets sur le concours en espérant être sélectionné. Donc, en gros, tu achètes avec t'as 10 000 points d'influence, t'achètes 10 tickets. Et tu vas dire, vas-y, je mets les 10 tickets pour être la présence un peu importante de cet épisode. Et j'imagine que c'est un système d'enchères, en fait. Hein. Si t'as un mec qui a mis 15 tickets, ben c'est pour sa gueule. Et sinon, toi, tu les as perdus pour rien. Okay. Donc là aussi, on voit un petit peu la mécanique un petit peu chelou, quoi.
Ça peut complètement ruiner la mise en scène, parce que moi, je vais me faire un personnage avec une crête.
T'as pas les outils de personnalisation, restent assez simples.
Ça va pas détonner.
Voilà, tu peux pas avoir un mec avec des cheveux verts ou avoir, je sais pas, des lunettes de jour de l'an chelou, là. Donc t'as quand même un look plutôt classique, et c'était à dessin, hein, qu'ils ont fait ça, quoi. Alors il y a quand même des questions qui se posent. Moi, je trouve à laquelle, hélas, j'ai pas de réponse. C'est comment ça se passe en termes de production? T'as un contenu que t'alimentes sur 16 semaines où les joueurs interviennent. On s'imagine que les mecs sont pas avec leur logiciel comme ça, attendre la décision du joueur pour modéliser une séquence et faire des dialogues. Donc, ça reste un petit peu nébuleux là-dessus. Donc, je pense qu'on peut quand même douter un petit peu de l'impact réel des décisions. Ou alors, voilà, bah, la meuf, j'ai dit le cas de tout à l'heure, bah, elle engueule son fils ou elle lui pique ses jouets. C'est juste une ligne de dialogue à écrire avec, comme tu dis, la scène, elle a peut-être la même gueule, quoi. Mm-hmm. Ce qui est pour l'embranchement de ouf avec la mort d'un perso qui viendrait chambouler tout. Pour l'instant, on l'a pas encore vu et je me demande si ça a un impact réel, en fait.
Sûrement des choix illusoires comme on peut avoir dans plein de jeux où t'as un choix entre deux réponses et finalement ça t'amène à la même conclusion. Là, c'est un peu pareil, un petit peu plus poussé parce qu'on a quand même du visuel.
Ouais, c'est vrai que dans les Telltale, ça avait été un petit peu reproché que c'était des choix illusoires, mais du moins que l'illusion fonctionnait, voilà. C'est ça qui importait, quoi. Et après, t'as toujours aussi le débat de se dire que, ben, plus tu mets investi de l'argent, ben, plus ton choix aura de l'influence sur le truc. Donc là aussi, il y a un problème un petit peu d'équité qui est un petit peu chelou, quoi. Donc la question la plus importante qui se pose quand même, c'est est-ce que c'est bien?
Ouais.
Bah en fait non, c'est un petit peu éclaté tout ça, parce que ce soit en termes de mise en scène, en termes d'acting, en termes d'ambiance, on est vraiment sur du bas de gamme. Mm-hmm. Alors je trouve la modélisation 3D, c'est pas dégueulasse, tu vois, c'est au niveau de, je sais pas, de jeux peut-être triple A PS4 aujourd'hui, mais par exemple les visages, ils sont assez inexpressifs, t'as vraiment ce côté, comme on dit, les yeux, les deux poissons morts, quoi, tu vois, où t'as pas d'émotion qui se dégage. Là-dessus, c'est quand même dommage quand tu veux miser là-dessus. Et surtout, bah, ça fait pas peur, en fait, quoi. C'est que des monstres, tu vas en voir à l'appel, qui ont des designs toujours un petit peu dégueulasses, mais il y a rien en termes d'ambiance ou de mise en scène qui va venir susciter ne serait-ce qu'un début de tension, quoi. Donc ça, c'est quand même bien dommage. Donc on peut se demander, en fait, quel est l'intérêt d'aller chercher la licence Silent Hill là-dessus, quoi. En fait, on se rend compte que Silent Hill aujourd'hui, hélas, c'est devenu un petit peu un prête-nom. C'est juste un moyen de capitaliser sur une réputation d'une série. On sait que l'horreur aujourd'hui, ça plaît au cinéma. Il y a beaucoup de cartons inattendus, c'est des films d'horreur parce que les gens aiment bien ça, aller se détendre et mater ça. Et plutôt que donc de partir sur une nouvelle IP que tu devrais créer from scratch, ben là, autant se servir d'un nom vaguement connu pour porter ça. Et d'ailleurs, moi, le premier, tu vois, je suis allé m'intéresser à ça parce que ça s'appelait Silent Hill.
Bah oui.
Et les précédents jeux créés par le studio, je n'en avais jamais entendu parler, quoi. Donc, on comprend évidemment la logique. mais l'esprit Silent Hill, parce que nous on l'aime bien, on a, en tout cas ici on apprécie grave les jeux Silent Hill, pour l'instant il est aux abonnés absents, hein, parce que, alors on voit bien que le jeu il utilise cette distinction entre le monde normal et le monde altéré, tu comprends que la culpabilité des personnages se matérialise un peu sous la forme de monstres et tout, mais au-delà de ça, en fait, le fond de la saga, bah, c'est pas que les mecs l'ont pas compris, parce que je pense qu'ils sont pas débiles, c'est juste que ça les intéressait pas, et c'est pas ce qu'ils voulaient en faire, donc ils ont utilisé une approche beaucoup plus traditionnelle, un petit peu de l'horreur, que ce soit en termes de direction artistique, de musique, ou même visuellement, on se situe quand même beaucoup plus du côté d'une approche réaliste à la Supermassive Games, donc le développeur qui a fait Until Dawn, The Quarry, ou Dark Picture Anthology, je trouve qu'on est vraiment sur ce type de jeu, et idem, hein, c'était des jeux qui avaient des choix et des conséquences qui venaient un petit peu créer des embranchements. Donc on est vraiment sur ce type de produit. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question, mais c'est pas du Silent Hill, quoi. Et toute cette surcouche communautaire, en fait, je trouve qu'elle fait qu'amoindrir l'immersion, quoi. Le jeu, il avait pas besoin de ça, et je trouve qu'il se voit même coller une espèce d'étiquette où tu sens que le jeu, il a envie de te soutirer du pognon, ce qui est jamais très agréable, quoi. Donc l'objectif, à la base, qui était quand même de réunir le meilleur des deux mondes entre jeux vidéo et série, bah, je trouve qu'on se retrouve avec le pire des deux mondes, en fait. Donc, une série avec des valeurs de production qui sont nazes et pas à la hauteur, et un jeu avec une interactivité qui est vraiment au rabais, quoi. Donc, finalement, l'intérêt, il est vraiment pas terrible. Et surtout, et ça, c'est Shambhala qui me soulignait ça, c'est est-ce qu'on peut s'investir avec une diffusion d'un contenu de 5-10 minutes par jour, en fait? Est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est une bonne méthode? Est-ce que le format est bon, tout simplement? Surtout que la communauté, clairement, là-dessus, elle est pas emballée. Et pour rester poli, ils tentent de saborder le truc dès qu'ils peuvent. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça, est-ce que ça durera 16 semaines, en fait? C'est pas impossible. Surtout qu'il y a eu des bisbilles, hein. Par exemple, ils se sont rendus compte que le nom Kojima dans le chat, il était censuré. Tu pouvais pas écrire Kojima dans le chat. Et là, le développeur, il y a eu des discussions sur Twitter avec notamment un influenceur. Le développeur a dit non, mais c'est notre IA qui, quand elle voit des mots qui sont trop répétés, qui va les censurer. Enfin, il a sorti une justification complètement éclatée. On voit qu'ils sont pas complètement à l'aise sur le sujet, quoi. Donc, je trouve que ça a au moins le mérite de tester quelque chose, de tenter une nouvelle voie. Je pense que Silent Hill était clairement pas la bonne licence pour ça. Peut-être qu'il y aurait des licences un jour qui seraient beaucoup plus appropriées et qui fonctionneraient mieux. En tout cas, on constate que Konami, ils ont pas l'air trop sélectifs dans leur volonté de relancer la série. Là, on voit que avec toutes les annonces qu'ils ont faites, le but c'était de viser un petit peu partout et de voir ce qui allait fonctionner ou pas. Donc t'as eu le gros remake, t'as le jeu un petit peu indé, t'as l'expérience communautaire chelou, le film au ciné. Donc on balance les cartouches un petit peu partout et on voit ce qui fonctionne. En tout cas, moi, enfin, je pense qu'on sera tous d'accord pour espérer que les prochains jeux, les vrais, de véritables jeux qui vont sortir prochainement, seront plus réussis, y compris le film de Gans. On croise les doigts là-dessus pour qu'on retrouve un petit peu la licence en forme et que cette résurrection en fait soit pas avortée dans l'œuf, quoi.
Ouais. Bon, de ce que tu me dis, ça fait pas du tout envie de ce qu'on en savait. Après, tu l'as dit en conclusion, Konami, moi c'était la sensation que j'ai, c'est qu'ils se sont servis de ça comme un bélier pour un petit peu servir de Silent Hill comme une licence, enfin comme licence uniquement, pour aller ratisser partout et aller chercher des concepts un peu chelous. C'est vrai que le série jeux vidéo, le mixer avec ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire la diffusion live Twitch, dans la théorie, je trouve pas ça bête. Je trouve ça plutôt intéressant. Après, c'est dans l'application, tu nous as dit que c'était pas rigolo, pas intéressant, pas abouti.
Surtout pour un jeu d'horreur, quoi, où t'as quand même l'ambiance qui est quand même importante.
Et que les développeurs, ils ont pas joué sur la fibre Silent Hill. Déjà, dans le scénario, tu m'as pas parlé de la ville, déjà.
Pour l'instant, non.
On est en Roumanie.
Pas de nouvelles.
D'accord. Je trouve ça dommage, mais les pauvres types, je pense qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé.
Oui.
Et là, tu sens direct, ça te fait rigoler, tu sais, ce qu'on appelle les dark patterns. Tu sais, le fait que, par exemple, un vote n'est pas un euro, on va te brouiller ça, c'est tant d'euros pour tant de points. Et en fait, tout ça est mélangé pour que, du coup, tu te rends pas compte que tu vas dépenser beaucoup d'argent dans tant de points d'influence quand tu parlais de ça.
Ouais, et encore, j'ai résumé, parce que t'as certains trucs où, si c'est toi qui as eu le plus d'influence sur une décision, tu deviens un peu le détenteur de la séquence avec ton pseudo en or en mode ah là là t'es le bonhomme du game.
Enfin, ce jeu il aurait pu s'appeler Freddy, il aurait pu s'appeler Vendredi 13, il aurait pu s'appeler n'importe quoi. Là en fait ils ont juste expérimenté un petit peu une sorte de format qui toi t'as pas convaincu, je pense qu'ils convainquent.
Ouais, mais faut vraiment s'imaginer où t'as une fenêtre avec la séquence horrifique, soi-disant, qui se passe avec le chat, et tu vois, tu sais, quand les mecs ils mettent des stickers dans le chat qui vont te faire pac pac pac.
Ouais.
Comme quand tu mates un streamer sur Twitch avec les alertes et tout dans tous les sens, quoi.
Ouais,
ça y a vraiment un problème un peu de ça fonctionne pas, quoi.
Ouais, il y a une contradiction entre l'envie de faire peur. Est-ce qu'ils ont encore envie de faire peur? Je pense qu'ils ont plus envie de faire de l'argent que de faire peur, là, c'est clair.
Je pense qu'ils voulaient, ces stimulants, ils se sont dit, ah, on va créer du buzz avec quelque chose de neuf. Ah, les jeunes, ils aiment bien les trucs d'horreur, et puis ils aiment bien regarder Twitch. Allez, vas-y, let's go.
Ouais, mais c'est uniquement ça, ouais.
Mais tu vois, moi, j'ai regardé l'épisode aussi en mode vraiment comme une série télé, donc
alors,
sur le service PlayStation.
De bonheur.
Et c'est dur. Enfin, 50 minutes, c'est long, quoi. Ça a été de la souffrance, quoi. Okay. Et en plus, tu vois bien les moments, tu sais, où un peu tu sens qu'il y a eu la transition, là, c'était la fin d'une séquence et l'autre. Là, tu sens, oh, tiens, ils sont en train de me faire un choix parce que là, les mecs, ils vont aller voter derrière. Tu vois un peu les coutures qui apparaissent en termes de prix indépendamment comme une série, ça fonctionne pas vraiment, en fait, quoi.
Et tout à l'heure, je te posais la question, au bout des 16 semaines, est-ce qu'il va se passer quelque chose, pas tant scénaristiquement, mais plus en termes de politique de Konami, qui a quatre jeux Silent Hill, qui les place les uns après les autres. Là, on voit clairement que c'était le plus vite fait, avec les 16 semaines en plus qu'il fallait déployer, donc c'était un petit peu normal. Est-ce qu'il y a une ambition derrière, tu penses, au bout de 16 semaines, il va se passer un truc Silent Hill qui va un peu déclencher d'autres projets?
Honnêtement, je sais pas dans quelle mesure c'est des trucs qui sont réfléchis en termes global, ou c'est chacun fait son truc dans son coin. Après, 16 semaines, quand même, d'avoir du contenu tous les jours, c'est énorme, quoi.
C'est énorme. Week-end compris, c'est tout le temps.
Les week-ends, je sais pas ça, par contre. Mais t'as quand même 50 minutes de contenu produit par semaine, quoi. Donc,
c'est quand même beaucoup. Moi, je m'étais vraiment gardé, hormis nos discussions, de me renseigner sur ça pour qu'un peu me marrer tout ça. J'ai hâte un petit peu de regarder ce que Ken va monter, les vidéos qu'il va mettre par-dessus, si vous nous regardez justement sur YouTube ou Spotify en vidéo. Moi, je vois pas du tout à quoi ça ressemble. Ce chat à côté, cette modélisation que j'imagine pas au rabais, mais en tout cas un peu sommaire.
Ouais, je vais te montrer l'appli tout à l'heure.
Et les monstres Silent Hill, c'est...
Il y en a plusieurs, en fait. Déjà, il y a quand même une recherche de créativité. Et ça reprend, tu vois, des poncifs, t'as le monstre filiforme avec entouré de barbelés. Il y en a aucun qui a l'élégance relative, mais bon, là-dessus, après, c'est désensibilisé. Hein.
Est-ce qu'ils vont y aller comme des bourrins, genre les infirmières, Pyramidhead, ils vont arriver bientôt, là?
Alors, ça m'étonnerait pas. Oui, limite, tu vois, presque annoncé, oh, et la collab, Pyramidhead et tout. Mais pour l'instant, c'est des trucs un petit peu inédits, quoi.
Oula!
C'est pour ça que, limite, ça pourrait ne pas s'appeler Silent Hill, ça choquerait personne, en fait, quoi.
Ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte que tu me dises que les héros se rendent à Silent Hill, parce que c'est un petit peu le propos.
Ouais. Et en tout cas, je remercie à Shambhala pour les infos, et courage à lui, parce que... Il a envie de suivre un peu le délire, mais voilà, plus pour voir le désastre un peu, c'est pas parce qu'il est fan, quoi.
Ouais, si vous voulez honorer la pugnacité de Shambhala et le courage de Nico qui s'est frotté à Silent Hill Ascension, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous participez à 3h du mat au live de ces petits épisodes de 10 minutes? On a hâte d'avoir vos retours. En tout cas, moi, personnellement, je ne m'y essayerai pas. Je vais juste voir une vidéo ou deux.
Tu fais bien.
Mais ça donne pas trop envie. Il est l'heure de se poser, après avoir un peu rigolé et ne pas avoir tremblé, de parler d'un interlude, d'un petit interlude top 3. C'est la tradition à chaque épisode. Et cette semaine, on s'intéresse au top 3 des jeux de super-héros, histoire de faire écho au précédent Surstrike EX qui s'intéressait à Spider-Man 2.
Ouais, bah écoute, ça paraissait de circonstance. Alors j'avoue, j'ai joué plutôt la modernité, moi. J'ai pris des trucs assez récents.
Moi, je suis très super-héros des vrais, quoi. Tu vois, on en parlait juste avant avec Damien, tout ce qui est Beautiful Joe, Wonderful 101, ce genre de super-héros qui en sont, hein.
Oui.
C'est vrai que moi je les ai un petit peu évincés.
Ouais, pareil, j'ai les trucs à licence, un peu les grosses franchises qui tâchent, quoi.
Ouais, on est sur du Marvel et du DC, j'imagine. Nico, je te laisse commencer avec ton top 3.
Alors, le 3, tu vas dire, c'est Marvel Spider-Man, le premier.
Dans un top 3, bravo.
Parce que, effectivement, j'avais beau avoir des réserves sur le jeu et que je conserve, il y a quand même des éléments, je vais pas dire objectif parce que c'est toujours compliqué, mais ça reste quand même un jeu qui est ultra solide, qui a des valeurs de prod de ouf, qui reste super divertissant. Pour une aventure Spider-Man, elle est bien écrite et tout. Donc, je privilégie le premier, c'était un peu le constat qu'on a eu tous les deux par rapport au deuxième épisode. On a préféré le premier. Donc, ça reste quand même un très bon jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi.
Je suis très content que tu le mettes dans ton top, non pas pour me moquer, mais parce que je l'ai pas dans le mien. Ah. Et c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement et qui fera aussi écho avec le jeu qu'on va évoquer tout à l'heure, Goldorak, avec ce côté assez à l'os, à la chair. Mmh. Vraiment, il n'y en a pas trop. On est directement dans le jeu, très jeu vidéo, qu'on peut penser un petit peu rétro, mais qui a un feeling qu'on peut apprécier. Mon top 3, je sais pas si t'as fait ce jeu. Je sais pas, je vais voir. Alors, X-Men Origins Wolverine, tu l'as fait?
Alors attends, c'est lequel? C'est l'adaptation du film et qui avait l'air plutôt cool. Là.
Alors c'est exactement l'adaptation du film qui est contestable. Enfin, moi, le film, je le trouve vraiment pas ouf.
Le film est horrible.
Il y a déjà Ryan Reynolds en Deadpool, là, c'est dans celui-là.
Ouais, mais c'était un Deadpool qui avait rien à voir avec ce qu'on imaginait, qui justement ne parlait pas et tout. Enfin,
le film est particulier, mais bon, c'est le jeu qui est sorti sur PS3 360, une époque révolue de piraterie. Donc, c'est pour ça, peut-être que tu l'as fait. En tout cas, moi, c'était sous voilà, sous le drapeau de ce courant, le drapeau pirate. C'est un jeu qui a été développé par Raven qui est devenu studio support des Call of. Donc okay. On est un petit peu dans l'actu, hein. Et donc c'est un jeu moi que j'ai vachement apprécié parce que c'est un jeu, donc voilà, adaptation du film, donc on a vraiment Hugh Jackman avec un aspect assez réaliste, avec un beat'em up 3D ultra qualitatif, mais moi il m'a marqué ce jeu parce qu'en fait tu te balades dans des temples Inca, tout ça, et en fait t'as l'impression de jouer à un beat'em up Tomb Raider,
ouais.
Et c'est vraiment ultra chelou, t'as 2-3 énigmes vite fait, mais c'est surtout en fait ce contexte où tu te retrouves vraiment dans un décor type Uncharted Tomb Raider, et t'es en train de latter des mecs avec Hugh Jackman, et tout ça est plutôt qualitatif,
mais mais il était pas genre, alors peut-être pas ultra violent, genre sanglant, mais genre tu défouraillais les mecs, ouais. De ouf quoi.
J'avoue, hein, moi c'est un souvenir assez lointain mais assez vivace, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans le top. C'est que, et je crois qu'il a plutôt bonne réputation.
Ouais, mais tu sais, c'est toujours pareil, le pari des jeux à licence où t'en avais 95% qui étaient nuls et t'avais toujours les 5% des mecs qui avaient fait le travail sérieusement sans être des jeux incroyables. C'était un jeu correct, quoi.
En tout cas, si vous voulez de la bagarre dans des temples Inca chelous et que vous voulez incarner Hugh Jackman, c'est un jeu que je vous recommande. Le top 2, Nico, on entre dans le jeu là.
Ouais, un jeu assez récent, c'est Gardien de la Galaxie.
Ah, carrément.
Donc développé par Square Enix, donc par la team d'Eidos Montréal, hein, les mecs qui ont relancé Deus Ex et tout. Alors c'est un jeu qu'on avait traité en Red Alert, ça fait quoi, 2-3 ans. Mm-hmm. Et c'était un petit peu le coup de cœur. C'est vrai que ça passait après la débâcle Avengers de Square Enix, donc le jeu en a hélas pâti. Et pour être honnête, quand on avait vu les trailers et tout, ça avait pas l'air ouf. Mais en fait, le jeu était très très bien fait. Super ambiance, des bons dialogues, la réal était super cool et surtout t'avais l'esprit vraiment gardien qui se dégageait du truc.
Et des super bonnes idées de gameplay et de narration. Et moi je me souviens à l'époque dans le podcast que j'avais plus ou moins dit, c'était que si un type comme Kojima avait fait ça, on aurait crié au génie. Et là c'est passé complètement au travers et en fait personne n'a trop relevé, mais il y a des vraies très très bonnes idées.
Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui il doit stopper à 5 balles ou dans un abonnement quelconque que vous avez forcément.
Sorti du Game Pass.
Ouais, donc si vous l'avez pas essayé et que vous trouviez ça un peu repoussant, essayez de tenter. Le coup, c'est, il est vraiment cool.
C'est un super bon jeu de super-héros et c'est un super bon jeu tout court.
C'est beau.
Alors pour mon top 2, moi en tout cas je rentre dans le dur, hein, là. Je n'aurai pas de mention parce que je vais tricher encore.
Ah là là.
Alors c'est The Adventure of Batman et Robin.
Putain, j'avais été sûr que t'allais le mettre. Ouais.
Mais les deux versions.
Ah, ok.
Je triche.
Donc t'as pas choisi, t'as pas tranché.
Non, j'ai pas choisi.
Mais bon,
parce que pour le coup, les deux sont exceptionnels. Alors, je vous parle d'un temps où les titres sortaient sur Super Nintendo et Mega Drive et étaient développés par deux studios distincts et des jeux qui n'avaient absolument rien à voir. Donc, on était vraiment sur l'adaptation donc de Batman et Robin, le dessin animé culte, l'animé de notre enfance, de avant Faut pas rêver, avant ou après Faut pas rêver, avant.
Après. C'était avant, je crois.
Ouais. Et là, les deux jeux avaient rien à voir. Donc sur Super NES, on avait un jeu d'aventure, scrolling horizontal classique, mais très très proche de l'animation du dessin animé magnifique. Aujourd'hui encore, il est magnifique. Mmh. Vraiment, c'est l'animation est ouf, le jeu est sublime, incroyable et très très fidèle à l'animé. Là, vraiment, on est sur quelque chose qui est un copycat vraiment de du dessin animé. Et côté Mega Drive, on avait une sorte de gun run and gun extrêmement difficile, où en fait t'as Batman et Robin, mais en fait ça aurait pu être un petit contrat, enfin un jeu contrat ou un jeu...
Ouais, tu balances des batrangs.
Des batrangs et tout. Et c'est un titre que j'ai, hélas, jamais terminé. Je l'ai racheté des années après, je l'ai réessayé et vraiment, il est dur. Mais vraiment, il est dur. Et quand j'étais petit ado, vraiment, je crois que je suis passé 3-4 niveaux et aujourd'hui encore, il est super difficile.
Mais de mémoire, le Super NES aussi était un petit peu alambiqué. Hein. Il y avait un niveau dans un musée où qui était pas évident.
Ouais, je crois que... Moi, je me souviens de la phase du Minotaur où il y avait justement l'énigme ou ce genre de truc. Et pareil, donc moi, la version Super NES, je l'avais fait chez un pote. Je l'ai toujours jalousé et je l'ai racheté en même temps que la version Mega Drive. Donc, j'ai les boules parce que j'ai les deux. J'aurais pu les amener pour le décor, mais j'ai oublié ce matin.
Là, on est dans la on est dans le cas du Aladdin. C'est-à-dire que les deux versions sont différentes, mais sont cool, quoi.
Ouais. C'est vrai.
Ouais, j'ai été sport.
T'as été sport et je resterai dans le fair play. Je suis d'accord avec toi. Donc Batman et Robin, Mega Drive, Super NES, balle au centre, les deux sont excellents, comme Aladdin. Allez, top 1.
Alors le numéro 1, ça va dépendre, parce que je suis convaincu qu'on a à peu près le même, mais j'hésite entre deux. Ok, donc voilà, bon, je vais parler de Arkham City Batman.
Non, mais on peut faire évidemment. Un commun.
Voilà. En fait, bah, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Hein, aujourd'hui, les meilleurs jeux de super-héros, c'est les Batman de Rocksteady. Et... je pense que le 1 et le 2 sont tout aussi réussis dans leur style différent. On peut apprécier le premier pour son côté unité de lieu, plus narratif, plus drivé, plus linéaire.
Ouais.
Et le second pour le côté monde ouvert, ce qu'il apporte à l'univers de Batman. On en parlait tout à l'heure, moi je trouve que c'est parmi les meilleures quêtes annexes de jeux vidéo. Ouais. Et les deux sont exceptionnels, en fait.
Ouais, ouais. Avec des scopes différents, alors pas dans l'ambition, mais dans ce qu'ils veulent véhiculer. Un premier, comme tu l'as dit, plus narratif, et un second où, en fait, Rocksteady, ils ont pas déçu, ils ont réussi à ouvrir la ville et à faire quelque chose, bah, tout aussi étonnant, tout aussi qualitatif. Et aujourd'hui, vous pouvez relancer les jeux. Il y a des remasters qui existent, hein, vous pouvez les lancer sur les next-gen. C'est encore complètement incroyable.
Ouais.
C'était vraiment évident qu'on cale ces Batman-là.
Ouais, et puis on est d'accord tous les deux, on en parlait aussi, c'est que le Origins, donc préquel développé par Arno Studio, et le Arkham, le troisième c'est épisode de Rocksteady.
Ah non, le troisième.
Ouais, ou même le spin-off PSP sont aussi des bons jeux. Alors ouais, peut-être carrément. Pas au niveau chef-d'œuvre du 1 et du 2, mais ça reste des bons jeux. C'est vrai qu'ils ont moins bonne presse parce qu'ils ont peut-être un peu déçu, mais ça vaut le coup de se faire toute la série, quoi.
Ouais, Origins pour son ambiance et séquence, tu l'as avec Joker qui est assez intéressant. Son ambiance de Noël, je sais qu'il avait moi une colorimétrie très, c'était très cuivre, comment ça s'appelle, Gears of War, la tour ocre, tout est marron gris. Et vraiment, j'ai ça en mémoire. Le PSP, Vita.
Le Vita,
je crois, le Blackgate, qui est hyper intéressant parce qu'il y a un scrolling et t'as deux, trois moments où en fait tu vas partir en profondeur. Et en fait, c'est uniquement pareil, unité de lieu comme le premier, mais là, non pas dans l'asile, mais dans la prison. Franchement, la saga est énorme, quoi. Le dernier, bon, c'est vrai qu'on a ce côté Batmobile qui était fantasmé, qui était réussi, mais le côté tank, peut-être.
Ouais, l'émission en tank était un peu trop redondante et longue. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on est un peu triste de voir que Sadi patauger dans son
Suicide
Squad, dans sa débâcle, et ne pas avoir sorti de jeu depuis, quand même, le Batman Arkham, ça fait un bail, quoi.
Ouais, dernier. En tout cas, on devrait normalement avoir la réponse en 2024, après moult reports, ça y est. Leur Suicide Squad devrait arriver. Ça m'excite pas du tout, mais j'ai envie de faire confiance à Rocksteady, mais vraiment, ça me...
Ouais, mais après, on leur a foutu un cahier des charges, je pense, pas très évident.
Pas évident. N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des jeux de super-héros. Là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Vraiment.
Ouais, c'est vrai que là, on a fait des trucs un peu plus récents, mais je pense qu'on a tous des
jeux. Je suis sur Pernes Robo Mega Drive.
C'est vrai que t'es la caution un peu rétro gaming.
Non, moi, j'ai failli te balancer le X-Men 2 Mega Drive qui était trop bien, meilleure jaquette, top des meilleures jaquettes aussi.
Ah, j'avais une mention, tiens, j'avais oublié. C'est vrai qu'on aurait pu citer la série des Marvel versus Capcom, en fait.
C'est vrai.
Les jeux de baston, donc, de Capcom. Il y a eu 4 épisodes, et oui, tout le monde a oublié le 4e. Mais ça reste des jeux de baston à chaque fois super solides. Et là, en termes de fanservice Marvel, t'es servi de ouf, quoi.
Le 4e, c'est l'Infinite, c'est ouais. Ça? Ah ouais, c'est vrai qu'il était nul, celui-là. Il a déjà quelques années, mais la modélisation était pas très heureuse.
C'était bizarre.
C'était bien la 2D. Voilà pour ce top 3 des jeux de super-héros. On va se diriger vers un autre super-héros, peut-être. Je sais pas. En tout cas, il a un gros robot. Alors Goldorak, peut-être pour les plus jeunes, resituer rapidement, Goldorak c'est quoi ? Goldorak c'est qui ? Ben, c'est un robot qui est tiré d'un manga de Go Nagai qui, pour nous, en France, a été diffusé la première fois sur Recréa 2 le 3 juillet 1978. Donc je ne suis pas de 1978, mais je suis du 3 juillet. Nous, on est, je pense, 10 ans plus tard. On devait avoir 4-5 ans.
C'est vrai que Goldorak, c'est un peu pour les mecs un tout petit peu plus vieux que nous. Et nous, on l'a vécu par rebond avec les rediffusions et compagnie.
Ouais, on était plus sur les rediffs. Alors Goldorak, c'est toi qui me l'as appris hier. C'est un spin-off de Mazinger Z, qui est au Japon la série de Go Nagai. Et Goldorak, c'est une série animée, spin-off, qui est pour nous devenue culte bien plus que l'œuvre originale.
Bah ouais, ça c'est vrai que c'est rigolo. C'est un de figure assez sympa. Alors je cherchais en réfléchissant un exemple mais c'est un peu finalement Shin Megami Tensei Persona aussi, tu vois, où le spin-off est, en tout cas chez nous, est devenu un peu plus
j'étais plus sur Cat Size et Nicky Larson mais les deux
c'est plus un univers partagé là qu'un spin-off, mais
voilà, attention, il faut être précis avec alors Goldorak, c'est en fait, je pense, une licence qui a pas la même importance pour tous. Donc voilà, je vais me resituer pour vous dire un petit peu où j'en suis. Moi perso, j'étais fan mais genre hardcore quand j'étais petit, mais j'étais fan quand j'étais petit et enfant uniquement, c'est-à-dire que j'ai pas poussé par la suite, et aujourd'hui on peut dire que j'y connais absolument rien en Goldorak. C'est vrai que j'ai complètement lâché l'affaire. C'est le cas par exemple sur des plateformes, ces licences comme Transformers et Tortue Ninja. Quand j'étais petit, c'était ma life, et en fait j'ai pas poussé, alors que ça soit Goldorak ou Mazinger, tout ça, Transformers, Tortue Ninja, ça a continué, ça s'est poursuivi, ça s'est enrichi, mais j'ai lâché, j'ai qu'un souvenir lointain. Toi, ouais. T'as des licences aussi comme ça ?
Ouais, mais je pense que c'est un petit peu le cycle normal, c'est que quand tu deviens ado, t'as pas envie de kiffer les mêmes choses que quand t'es petit, et avec l'âge aidant, tu reviens un petit peu aussi à des trucs qui t'ont marqué quand t'étais jeune. C'est rigolo.
Transformers, Tortue Ninja. Ouais, Transformers, je vous en ai déjà parlé sur différents jeux, et un jeu qui fera peut-être encore une fois un petit peu rappel à celui d'aujourd'hui. Donc le Festin des Loups, on va parler du projet du jeu. C'est un titre Microids qui sont je pense, de spécialistes, des adaptations de licences et de licences notamment de BD franco-belges, Tintin, 13, les Schtroumpfs, tout ça, c'est eux. Donc on est dans quelque chose de très franco-français, mais ici, ce qui est cool et intéressant, c'est qu'ils abordent le Japon avec l'adaptation d'un manga et d'un animé, donc le Goldorak. Et là, on est clairement sur une situation où c'est Microïds qui a chopé la licence, qui a réussi en fait à faire un contrat avec Go Nagai et les ayants droit. Et donc, ils ont mandaté un studio français pour le développer, ce jeu. Et donc, ce développeur, c'est les Nantais de Endroad. Donc, on est là clairement sur un projet d'éditeur. Microïds, pour rappel, c'est un éditeur qui a une politique un petit peu particulière, hein, qui va vraiment récupérer toutes les licences, même au niveau de la distribution. Par exemple, les jeux Fort Boyard, Koh-Lanta, ils vont distribuer. La distribution, c'est aussi quelque chose qui est très important chez Microïds. Ils font pas que éditer, ils vont aussi distribuer Sifu. Ils ont distribué la version physique. Ils sont encore aujourd'hui dans la distribution. C'est un éditeur qui a une politique de volume, donc il va faire beaucoup, beaucoup de jeux, qui va sortir beaucoup de jeux, notamment à Noël. C'est le cas actuellement. Et donc, là, dernièrement, il semble qu'il y ait un petit peu un redressement. Donc, ils ont toujours cette politique de licence de volume, mais ils vont essayer de mettre un petit peu plus l'emphase sur la qualité. Là où avant, la licence suffisait. T'achetais des jeux une fois, tu te faisais avoir. Mais bon, ton gamin, bah, il s'en fout. Il avait son jeu licencié. Ça
oui.
pouvait passer.
Après, on sait que c'est un arbitrage économique. C'est que déjà, te procurer la licence, ça coûte cher. Et du coup, t'avais peut-être plus forcément le pognon pour faire le jeu derrière.
Voilà, c'est clairement, on est dans tout l'enjeu aussi du jeu Goldorak. Donc, il y a les Astérix, là, qui sont plutôt pas mal. Il y a le futur Flashback 2 qui va sortir dans quelques jours. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Un jeu dans lequel Paul Cuisset est vraiment intégré et impliqué. Donc, voilà. On est encore sur Goldorak là, sur vraiment un jeu d'impulsion à l'éditeur. Donc, c'est aussi important de le préciser. Nico, c'est quoi le regard que tu portes sur Microïds aujourd'hui? Malgré la mauvaise réputation et la meilleure réputation qui commence à avoir.
Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai pas joué à tellement de leurs jeux, mais de l'extérieur, j'avais eu l'impression qu'ils tentaient quand même d'améliorer la composante voilà jeu vidéo en tant que tel, de conserver le côté jeu à licence, mais d'avoir un petit peu d'augmenter la qualité. C'est que l'Astérix c'était pas mal. Ouais. Je crois que t'avais bien kiffé toi le Marsupilami en plateforme 2D qui
très
était
honnête.
Plutôt cool. Mmh. Après bon on voit que ils sont un peu retombés dans leur travers visiblement avec le jeu Tintin qui est sorti peut-être beaucoup trop tôt pour son propre bien.
Ouais, on a eu le jeu 13 qui est le remaster du jeu 13 qui est sorti d'une façon complètement catastrophique, qui a été retapé derrière et là c'est devenu correct, mais on a un petit peu, tu l'as dit hein, franchement, cet arbitrage de on a une licence, on a une équipe peut-être limité, il va falloir jouer un petit peu avec cet équilibrage, c'est pas évident.
En tout cas, ils ont une team pour négocier les droits qui sont plutôt pas mal, parce que négocier avec Moulinsart et avec Go Nagai, je pense que c'est pas mal, quoi.
Ouais. Mais bon, c'est aussi le temps, et ça, c'est tout ce qui est négociation d'IP, c'est le temps qui fait son œuvre. Mmh. C'est-à-dire que plus t'as d'IP, plus t'as montré que tu pouvais faire des jeux, qualitatif ou pas, mais que tu pouvais délivrer, que tu pouvais sortir les jeux et y arriver, finalement, tu te fais un catalogue et tu dis, regardez, moi, je suis le représentant de Tintin, Astérix, Marsupilami, 13, etc.
Ouais,
etc.
Ça parle pour toi après. Et il paraît que leur Agatha Christie est pas trop mal, qui est sorti il y a quelques semaines.
Avec Hercule Poirot.
Ouais.
Plutôt pas mal aussi, j'ai l'impression. Alors, Goldorak, le festin des loups, c'est le titre du jeu. C'est quoi? Alors, c'est un jeu qui est composé en plusieurs séquences. Je vais essayer de vous décrire un petit peu un niveau type. Tu as tout d'abord un beat'em up dans lequel tu vas contrôler Goldorak, le rebou, dans des grandes zones assez ouvertes, complètement ouvertes même, qui sont assez conséquentes, dans lesquelles, en fait, tu vas pouvoir faire des missions, des petites missions principales ou annexes dans l'ordre que tu veux, et c'est aussi dans ces grands hubs, donc pas du tout un hub, mais dans ces grands niveaux que tu vas pouvoir en fait justement ramener tous ces petits collectibles, toutes ces petites missions annexes. Ça c'est la version, c'est la phase beat them up. Tu as aussi la phase shoot them up où là tu vas contrôler Goldorak cette fois vaisseau dans des séquences qui sont assez simples, qui sont des séquences transitoires, qui sont là un petit peu pour varier le rythme. Alors t'as deux versions de ces phases de shoot. T'as une façon top down avec Alcor et t'as une version vue de derrière avec Goldorak cette fois façon un petit peu plus space arrière. Donc t'as deux versions. T'as aussi à la fin de chaque niveau un boss qui va se dérouler dans une arène. Donc là t'as un duel et qui va conclure le niveau. Et enfin tu as aussi des séquences avec Actarus dans la base ou dans le ranch où là en fait il est habillé normalement, il est pas en super Goldorak, et c'est des séquences aussi transitoires où là tu es à pied et qui vont faire un petit peu le liant de tout ça.
Ouais, c'est un petit peu plus narratif là, on va dire, mais bon, ça reste un grand mot.
Voilà, c'est un petit peu plus narratif. Alors le schéma, il sera toujours le même. Il y a 6 niveaux et 6 fois, vous allez dupliquer en fait ce que je viens de vous décrire. Alors ici, on présente un petit peu différentes formes du jeu pour en fait différentes incarnations du personnage. Et c'est ce que je trouve très intéressant parce que ça apporte, c'est l'apport de l'ambition du studio. Ils ont essayé ici de nous faire vivre différents versants du personnage, le personnage en civil, le personnage en robot, le personnage en vaisseau. Perso, moi, j'ai beaucoup aimé découvrir chaque représentation, la variété que ça a apporté, et aussi constater que toutes ces représentations du personnage montrent à quel point le jeu, finalement, et les développeurs, ils sont ambitieux. Mais ils veulent faire plein de choses, mais on l'a dit tout à l'heure, ils sont peut-être aussi limités en budget, du fait de la licence, du fait de l'équipe, du fait de tout. C'est un jeu d'éditeur, donc ils ont alloué un budget à une équipe. Et donc ça sent que l'ambition est là, mais ça se sent aussi que le budget, il est pas trop là, on va y revenir. L'ambition est louable, mais elle est peut-être aussi un souci, en fait, l'ambition. On va faire un petit point sur la technique, à quoi ça ressemble, ce Goldorak, le Festin des Loups. C'est, dans sa structure de jeu, un titre PS2, dans son gameplay. Alors, ça peut paraître un petit peu péjoratif, on va voir que c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Pour moi, ça l'est pas trop.
C'est le plus beau compliment du monde.
C'est un titre qui, dans ses graphismes, peut faire penser à un jeu PS3, mais tout juste, hein. Vraiment, on est sur... Après, on est sur un titre HD, lisse, propre et tout. Là, on est plus sur un titre PS4. Moi, j'ai joué sur PS5, mais malgré le fait que je sois sur PS5, c'est quand même un titre qui rame.
Ouais.
Donc voilà un petit peu pour le portrait robot de ce que c'est. Mais c'est un titre qui est conscient de ses limites. Et donc, c'est un jeu qui va pas mettre toutes ses forces à la même intensité dans tous les secteurs du jeu. Les devs et l'éditeur, ils ont dû faire des choix. Déjà, en fait, ils ont favorisé, je pense, l'esthétique plutôt que la technique. Alors oui, il y a des bugs, ça rame, mais je trouve ça plutôt joli. Esthétiquement, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a des beaux panoramas, il y a quelques effets plutôt cool. Une sorte de toon shading qui est très mignon, qui est très approprié, je trouve, pour une adaptation d'animé. Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt agréable de naviguer dans ces niveaux. Après, si vous faites le bêta-testeur et que vous allez prendre votre Goldorak et que vous allez jouer dans ces mondes un petit peu ouverts, vous allez voir les coutures. Hein. Vous allez voir même que les coutures, elles vont craquer parce que techniquement, ça tient pas la route. Mais si vous jouez entre guillemets plus ou moins normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Mais pour parer en fait à ces limites, qu'ils soient budgétaires ou techniques, ils ont fait des choix, je l'ai dit, et donc ils ont mis l'accent sur l'immersion. Et comme je le disais, les choix, ils ont été opérés, des choix qui sont pragmatiques, mais plutôt bien pensés. Vraiment, je trouve que c'est plutôt intelligent ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est l'immersion qui a été favorisée, ceci pour amplifier la nostalgie et faire écho au matériau de base, hein, qui est l'animé. Et on va voir un petit peu les choix qui ont été opérés au niveau de l'immersion. Déjà, tout est entièrement doublé, ce qui est quand même, pour un jeu de ce scope-là, à relever. Le doublage en français et en... Alors, j'ai scrollé un petit peu, il y a quand même de nombreuses langues qui sont proposées. Je crois pas qu'il y a le Jap, mais bon, c'est pas... Là, c'est un jeu pour nous, hein. Enfin, pour le public occidental. En tout cas, dans notre version européenne, il y a quand même plusieurs voix. Donc, on est sur une narration dans les phases transitoires, tout à l'heure où je le disais, avec des images fixes, avec zéro animation, mais on est doublé. On a quand même, tu vois, une espèce de dissonance où tu te dis, tiens, ce que je vois, c'est quand même assez sommaire, mais j'ai des voix. Et ouais, parce que justement, c'est ça. Ils ont fait un choix en disant, non, les voix, c'est fondamental. L'argent, il a été mis là pour vraiment avoir des doublages.
Ouais, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, presque, qu'ils étaient obligés parce que, à l'époque, on se posait pas la question de mater les animés en VO sous-titrés. C'est Goldorak. Pour nous, c'est la VF, c'est les souvenirs qu'on en a. Mm-hmm. Et quand tu veux convoquer cette nostalgie, t'es obligé d'en passer par là.
Ouais. Autre choix qui a été opéré aussi, c'est au niveau des attaques. Donc, il y a vraiment beaucoup d'attaques qui ont été choisies. Il y a un choix très précis. Il y a vraiment un accent sur la fidélité qui a été mis. Les super attaques, tu as l'écran qui se déchire au milieu comme telle une case de manga. Il y a beaucoup de pouvoir. Il y a un travail important qui a été fait sur la retranscription de l'animé, et donc du coup tout le travail de licensing donc avec Go Nagai et sa société qui s'appelle Dynamic Planning, là on sent qu'il y a vraiment une collaboration qui a été faite, et c'est quelque chose qui là de façon effective coûte super cher, c'est inévitable, donc je pense autant bien le faire, ceci pour rassurer les fans et aussi pour rassurer les ayants droit, peut-être pour signer une suite par la suite si le titre marche bien. Donc je pense que là on est sur quelque chose encore une fois de pragmatique, il faut rassurer tout le monde, donc l'aspect fidélité, moi je trouve excellent, notamment sur les attaques et sur plein d'autres trucs. Donc c'est normal.
Là aussi il y en a pour des raps quoi, Fuguro et compagnie, enfin voilà, c'est là où on a découvert que dans les productions japonaises, les mecs gueulent leur technique pendant qu'ils les font. Et
ça gueule tout le temps, tout le nom des...
Mais c'est trop bien, c'est un truc cool, quoi.
Donc, petite précision sur les voix de l'époque, la plupart des doubleurs ne sont plus parmi nous. Donc, il y a des nouveaux doubleurs qui sont arrivés, qui, pour les puristes, ça je ne sais pas, mais pour moi et mon souvenir font un travail, je trouve, tout à fait honorable, super qualitatif, et encore une fois dans la fidélité que je trouve vraiment au point. Donc voilà, si vous êtes vraiment un féru, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais...
Ouais, et même les dialogues, je ne sais pas si tu veux en parler plus précisément.
Bah, tiens, on peut en parler là, justement, cette écriture qui est un petit peu désuète, qui fait très bien, qui va mimer, qui va singer l'animé. Et là, on est sur les choix pragmatiques. L'écriture, c'est ce qui coûte. En tout cas, la vraie écriture, c'est ce qui coûte le moins cher. Et là, bah, ils ont mis l'emphase là-dessus pour le côté fidélité, pour le côté immersion. Moi, je trouve que ça marche.
Ouais, ça crée ce sentiment vraiment avec ce phrasé. Alors, moi, ça m'évoque, peut-être je suis une association d'idées, mais le Star Wars aussi, la première trilogie, qui avait une VF très élaborée, avec un vocabulaire un peu original et désuet qui fonctionnait bien et qui donnait l'identité forte. Et là, on est un peu là-dessus aussi.
Ça fonctionne. Donc, dans ces phases de beat'em up, dans ces phases de grand monde ouvert, enfin de grandes séquences avec le niveau assez ouvert, là, je trouve que le feeling d'être un robot, je trouve qu'il fonctionne. T'as un robot qui est immense, mais qui est très agile, tu sens son poing, tu sens son poids, hein. Tu n'étais pas un mec qui est déguisé en Goldorak. Néanmoins, si vous êtes pointilleux, vous allez remarquer que vous pouvez rien casser, que ton impact sur le décor, il est nul.
C'est Goldorak qui casse pas.
Goldorak qui casse pas, mais tu peux toi t'amuser à marcher sur des petites villes quand on te le permet. Tu vas voir qu'il va y avoir un petit effet d'éclaboussure, mais il va rien se passer. Ça peut couper l'immersion, mais je pense que ça aurait demandé vraiment trop de ressources. Mais pour faire ressentir ce gigantisme, encore une fois, on est là dans la séquence où on parle des choix pragmatiques qu'ils ont dû faire. Ils ont bossé sur des décors façon petit diorama, et ça, c'est très mignon aussi.
Ça, pour moi, c'est top. T'as vraiment ce rapport d'échelle déjà qui est fait, et ça m'évoque deux choses. C'est le côté tokusatsu, donc les shows japonais à la Bioman, à la Godzilla, où t'as ce côté, tu sais, carton pâte, maquette et tout, qui je trouve donne un charme de ouf qu'on retrouve là.
Ouais.
Et t'as aussi ce côté, t'as l'impression d'être un enfant qui joue avec tes jouets en fait sur ton plateau.
Exactement.
Avec les petites voiture qui roule et tout, on voit t'escorter une petite voiture de pompier, je trouve ça tellement trop mignon et pour moi ça fonctionne de ouf en fait. Quoi.
Ouais, je rebondis sur le fait que tu parles de ce Kusatsu, de Sentai, tout ça. Moi je trouve que le côté, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait six niveaux qui allaient se répéter. Tu as évoqué une quête annexe où tu vas escorter dans chaque niveau, tu vas avoir un niveau d'escorte, c'est très programmatique et ça va se répéter. Je pense que c'est une interprétation de ma part, mais il y a vraiment, je trouve, un délire d'immersion dans le sens où t'as 6 niveaux et t'as 6 épisodes. Et à l'époque, dans les dessins animés, je suis désolé, mais la structure narrative et la structure de chaque épisode est exactement la même. Et j'ai un petit peu eu ce délire de, je me retrouve à jouer 6 niveaux et à mater 6 épisodes de ma série animée. Je sais pas si c'est extrêmement volontaire, mais moi, j'ai reconnu quelque chose et j'ai pas vu ça comme un défaut. Je pense que ça peut être relevé comme un défaut, en revanche.
Oui, mais comme tu dis, ton épisode de Bioman, t'avais le méchant de la semaine, puis à un moment, il devenait géant, donc les mecs, ils appelaient leur robot avec toujours les mêmes séquences, puis après, ils faisaient leur coup ultime à 5 pour faire le rayon laser de ouf. Enfin, tu retrouvais ces trucs et c'était un peu des repères et des gimmicks qui sont un peu rassurants aussi, quoi. Comme tu dis, là, faut jouer peut-être le délire à se faire un épisode par jour ou par semaine pour entretenir le truc, quoi.
Peut-être. On a évoqué tout à l'heure la narration en écran fixe, avec néanmoins des voix. De la mise en scène, elle est rare. Mais il y en a de temps en temps sur les boss. Alors, à chaque fois que vous allez voir un Golgoth, donc ces boss de chaque niveau, vous allez avoir une mise à mort, une mise en scène d'introduction et de conclusion. Elle est bien présente. Elle n'est effective que sur ces boss. Donc, encore une fois, on est sur des choix, hélas, pragmatiques. Ils ont mis l'emphase sur quoi? Sur ces Golgoth, c'est le truc que tout le monde attend. En fait, le jeu, il est tellement articulé autour de ça qu'il aurait limité pu être un boss rush, mais ils ont choisi, en fait, de varier les gameplays, de varier les possibilités de gameplay, mais ils ont pas oublié que c'était les boss l'important. Quoi.
Oui, d'ailleurs, dans la bande-annonce, je pense qu'ils s'en sont servis allègrement.
Ouais. En tout cas, voilà. La mise en scène, sachez-le, elle est rare, mais elle est là, en tout cas, assez efficace sur les boss. Dernier point sur les choix pragmatiques du studio et de l'éditeur, les musiques, ça a été une partie aussi de la négociation. Ils ont réussi, et de ce que j'ai cru comprendre en interview, ça a été extrêmement difficile, mais c'était un prérequis assez fondamental pour eux d'avoir ces musiques. Et clairement, on est sur une espèce de game changer. C'est que là, vraiment, il te suffit d'une note, d'une mélodie, et là, tu pètes un câble. Donc, ils ont mis la thune pour la négociation, mais ils ont aussi mis la thune pour la composition, parce que le compositeur qui a réorchestré et qui a aussi élaboré quelques nouvelles compositions, c'est Marcin Przybylowicz, je l'ai bouffé le nom, je suis désolé. Rappelez-vous, c'est le compositeur de Witcher 3 et de Cyberpunk.
Ah, ok.
C'est ça ce que je veux dire, c'est pour ça que je finis là-dessus, c'est que L'emphase est mise à certains endroits. Il y a des manquements, clairement, on va y revenir. Mais là, ben, la musique, c'est...
Comme tu dis, ça fait presque 50% du boulot. Enfin, moi, quand je jouais, dès que ça allait notre temps tisser, j'étais à la maison, quoi.
Et pour le coup, ça fait plaisir. Là, t'as les nouvelles compositions, moi, que j'ai même pas percuté tellement c'est fidèle. La réorchestration des thèmes connus, c'est une espèce de tuerie. Donc voilà, en fait, sur le panorama, essayer un petit peu de comprendre comment le jeu a pu être créé sur cet arbitrage des choses à faire sur une équipe et un budget qui est limité, mais sur, ben, on met l'emphase sur quoi? On met l'emphase là, ben, du coup, sur l'immersion. Maintenant qu'on sait ça, on peut peut-être se poser la question, ce jeu, il est pour qui? Alors, au vu des sujets, Goldorak, on est peut-être sur du trentenaire, sur du quadra. Pour les nouveaux venus, moi, je me pose la question, est-ce que ça peut vous convaincre? Je pense que oui et non, hein, parce que si vraiment vous prenez ce jeu en disant, bah, c'est un jeu d'action, je pense qu'il est trop simpliste, trop simple, peut-être trop anachronique, hein. On est clairement sur un jeu rétro involontaire, hein. C'est qu'on est, ils ont pas volontairement, je pense, fait un jeu rétro. Donc, si t'as pas cette fibre comme moi un petit peu des jeux PS2, je pense que ça va pas vous plaire. En revanche, pour les plus jeunes, pour les plus petits, je pense que ça peut fonctionner de ouf, de par son gameplay accessible. En tout cas, sur les premiers niveaux, il y a aucun problème. On est quand même en train de gérer un robot géant. Donc ça fonctionne de ouf. Et faut pas l'oublier sur le passage de témoin, c'est-à-dire qu'on est sur des parents qui vont peut-être montrer à leurs enfants les dessins animés de leur enfance. Donc on est sur quelque chose de pas forcément illogique, et je pense que Microïds et le studio y ont pensé. Microïds, c'est avant tout des jeux pour enfants, essentiellement. Ils sortent beaucoup de jeux à Noël assez simplistes. Faut pas le zapper. On n'est pas sur là le jeu pour les rétro gamers. Faut toujours penser le jeu, il est dédié à qui, il est à quelle visée, quoi.
Ouais, bon, c'est vrai, comme tu dis, t'as le côté transmission, quoi. Et je pense que le petit qui joue, alors même si bon, il a pas besoin lui d'un gameplay ultra pointu, même si encore une fois les enfants sont exigeants, bien sûr, au moins que le gameplay soit réussi
en termes de complexité.
Oui. Mais bon, s'il voit les étoiles dans les yeux de son père, je pense qu'il va s'intéresser au jeu plus précisément qu'un truc random, quoi.
Et n'oublions pas qu'on joue un robot géant. Et puis les panoramas, vraiment, les niveaux sont vraiment très mignons, même s'il y a pas une grande diversité entre les 6 niveaux. Il va y avoir des déclinaisons. Donc le premier, c'est une espèce de grande prairie. Après, t'as un volcan. Après, t'as la ville. Après, moi, j'ai trouvé ça très mignon. Après, vous pourrez dire que c'est assez répétitif, mais c'est le cas. Alors, en conclusion, moi, je dirais que ce Goldorak, c'est... Alors, ça va paraître méchant, mais je vous jure, dans ma bouche, c'est pas le cas. Je trouve que c'est le remaster d'un jeu qui a pas existé. Et en fait, il faut y adhérer. En fait, il faut apprécier le feeling à des jeux PS2, des jeux dans lesquels, en fait, on collecte des ressources et on tape des monstres sans trop se prendre la tête. C'est un jeu, je trouve, avec une immersion qui est forte, mais uniquement pour envoyer un dessin animé. On n'est pas dans l'immersion qui va nous faire oublier qu'on est dans un jeu vidéo. Au contraire, faut se méfier avec ce terme d'immersion. Là, on est sur l'immersion qui renvoie au dessin animé. T'es pas en mode « Ah, j'oublie que j'ai une manette dans la main ». Mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, la manette, t'oublies jamais que tu l'as. Je trouve que ce Goldorak, c'est un jeu qui est un hommage au Japon, mais aussi un jeu hommage aux différents jeux japonais. Donc, on est sur le shoot, them up, sur le beat them up. Ce sont des genres qui sont cultes, mais aussi, c'est des genres qui sont super précis et qui sont finalement durs à imiter, qui sont durs à singer. Et c'est peut-être ça, c'est un peu l'ambition du studio qui a desservi peut-être le jeu à vouloir trop en faire, trop dommage, trop de versions de gameplay différents. Donc c'est un jeu qui est développé sur Unity, mais voilà, on a quand même des représentations différentes, trop de séquences qui ont demandé trop de temps, trop de ressources, qui auraient peut-être servi à peaufiner un seul pan du jeu. Peut-être si on avait vu que ce beat them up 3D et l'ensemble des ressources du reste avait été alloué à ça, peut-être qu'on a eu un jeu plus riche, moins diversifié. Donc c'est aussi compliqué, hein, cet équilibre.
Ouais, mais je pense, toi comme moi, quand on a eu la petite séquence de shoot qui est apparue, on s'est dit ah cool machin, ça évoque aussi des trucs. Alors
pour de vrai, j'ai adoré, moi.
Elles sont peut-être trop longues et pas forcément. Moi, je trouve qu'elle est presque trop jouable, les séquences de shoot. C'est que t'as le vaisseau est trop rapide et trop précis. Enfin trop, il oscille au moindre mouvement, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais oui, t'as la valeur ajoutée nostalgique, quoi.
Ouais. Alors le jeu, hein, je vais pas vous mentir, c'est un jeu qui est un peu cassé, mais je le trouve pas mal pensé. C'est-à-dire qu'il y a plein de titres pour lesquels j'ai été hein, par le passé assez dur, même des gros jeux, des petits, on s'en fiche. Tu vois, j'ai en tête le dernier jeu que j'ai moins apprécié, c'est le Sonic, parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient mal pensées. Là, le jeu, il est cassé, mais il y a pas vraiment de choses qui sont mal réfléchies. Je trouve qu'il y a des choses en fait qui vont pas techniquement, mais le tout, cette espèce de mayonnaise au final, je trouve que ça fonctionne. Et c'est très intéressant à observer parce que il y a le pari très audacieux du studio. Ben, ils ont peut-être été trop audacieux pour l'équipe en charge et pour le budget alloué. Mais malgré ces contraintes, ben, des choix ont été opérés et des choix qu'on pourra contester, mais que j'ai trouvé, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer ici, des choix que je trouve compréhensibles. Après, pour 40 euros, je pense que vous pouvez pester. Si vous, c'est pas aux joueurs, en fait, de réfléchir au contexte de création, de réfléchir à qui est l'éditeur, qui est le studio, qui est le budget. Clairement, vous vous retrouvez dans un rayon, vous voyez le jeu Goldorak, et vous voyez ce titre-là, vous tournez, je trouve plutôt mignon, sympa et tout, tu te dis, tiens, c'est un espèce de monde ouvert et tout. Clairement, si vous pensez, vous achetez le jeu pensant, en fait, avoir un titre d'action Goldorak et que vous venez de sortir de Spider-Man 2, le dernier jeu d'action à la mode, je pense que vous pouvez tomber de votre chaise ou voyager vers le passé.
Oui.
Donc, finalement, ça dépend, en fait, c'est peut-être aussi intéressant de se renseigner toujours pareil avant d'acheter.
Écoutez, Red Alert.
Peut-être aussi, mais ça dépend de ce que vous allez chercher, ça dépend de votre en fait feeling que vous pouvez avoir avec le rétro gaming. Comme je le disais tout à l'heure, tu vois, je pense pas que ce soit un jeu rétro à dessin. Ils ont fait ça par la contrainte budgétaire. Après, tout s'explique. Tu peux, il y a plein de jeux qui sont foncièrement mauvais que tu défendras pas. Néanmoins, j'ai l'impression que le jeu là, il est plutôt bien pensé. Il y a qu'une seule mécanique que je trouve pas ouf, c'est le regain de vie. Je sais pas si t'as fait gaffe. Le regain de vie qui, en fait, t'es Goldorak qui absorbe, en fait, les rayons du soleil. Tu te retrouves immobile et c'est long. Alors, ouais. À la fin du jeu, ça sera beaucoup plus rapide. Mais en fait, je trouve qu'il y avait une contradiction entre le dynamisme du jeu et, en fait, l'obligation de te faire stopper pour te faire gagner
ouais,
de la vie.
Ouais, t'as un petit challenge qui, pour le coup, peut-être, colle pas avec le reste, hein, mais un peu à la Dark Souls où ton mec, il va boire sa potion, ouais. Ça prend un peu de temps. Là, les boss, ça m'arrivait, moi. Vite, je vais m'éloigner, vite le temps que je recharge mon truc. Ça crée une petite excitation, quoi.
Ouais. Mais ce que je veux dire aussi, c'est quand je parlais d'hommage au genre du jeu vidéo japonais, c'est, et quand je disais que c'était des genres qui étaient extrêmement codifiés et précis, c'est que c'est ultra dur, j'imagine, vraiment à s'en approcher un tout petit peu. Et là, ils se sont confrontés quand même au beat'em up, le 3D, au shoot'em up, et des genres qui sont cultissimes. Et c'est vrai qu'on peut tout de suite voir un petit peu la déconnexion, pas avec la réalité, mais avec le fait que ce qu'ils ont voulu faire est assez éloigné des grands cadors. Mmh. Après, toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec ce qu'ils ont eu. Au final, je vais pas vous mentir, moi j'ai fait 11 heures en 3 jours. Il me manque deux trophées pour faire le platine. Oui, c'est vrai que le jeu, il est un peu cassé. Après, j'y ai pris du plaisir. Est-ce que les plaisirs coupables existent? On s'en branle. J'ai envie de dire, vraiment, en connaissance de cause.
Ouais, du moment que tu kiffes, c'est ça qui est cool. C'est vrai que ce qui est important, c'est comme tu dis, le mec qui est vraiment pas au courant et qui va voir Goldorak en espérant trouver son triple A, machin, il va tomber de haut, forcément. Mais bon, est-ce qu'il y en a beaucoup ou quoi? Mais si vous y allez en connaissance de cause et que vous avez cette affection pour la série, je pense qu'il y a, je vais pas dire, il y a peu de chances que vous soyez déçus, mais, ça fonctionnera, je pense, au minimum.
Il y a un truc qui fonctionne après, parce que la nostalgie parle trop fort. Après, il y a des choses qui sont cassées, je l'ai dit. Moi, j'ai des scripts qui se sont pas lancés.
Ah oui, ok.
C'est-à-dire que j'ai eu des combats sans musique, j'ai eu des trucs, ça, j'espère qu'ils seront patchés. Mais, moi, j'ai kiffé. Donc là, le titre s'appelle Le Festin des Loups. Et donc, c'est le nom d'un épisode bien connu, le 7e. Et donc, le titre reprend du début jusqu'à cet épisode-là. Moi, j'ai qu'une envie. J'ai qu'une envie, c'est que, il y ait une suite qui prennent cette base, qui l'enrichissent, qui l'agrémentent et qu'ils aillent plus loin après, par la suite. Donc vraiment, moi je suis super chaud. Juste en conclusion, je dirais que, et tu l'as vu parce que c'est dans le prologue, à la fin du prologue, en fait, t'as l'écran qui est en 4 tiers, qui se transforme en 16/9. Moi, alors je suis pas développeur, j'y connais rien, mais j'aurais fait le contraire. C'est-à-dire que ils ont pas réussi à faire cette transition entre le souvenir nostalgique et la modernité d'un jeu vidéo. Pour moi, c'est le contraire. C'est que on est sur un jeu pas moche, donc un HD et tout machin. Et en fait, il faut accepter de plonger dans la nostalgie. Il faut accepter de plonger dans le passé. Donc, je serais passé du 16/9. Au 4 tiers, en disant, allez-y, les gars.
Ouais.
Enfin, c'est par là qu'on va partir.
Ouais. Bah, moi, j'ai trouvé l'effet trop mortel. C'est vrai que ça fait, t'as cette patine aussi avec l'effet vieux générique. Et tu fais, ça y est, en fait, je suis dans le futur, quoi.
Ouais, mais c'est ce que ça promet.
Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, ce qui est dans le jeu à licence, ce qui compte, en fait, c'est, l'équipe, là, on voit qu'elle était passionnée par son sujet et qu'elle avait toute la bonne volonté du monde. Il y avait des contraintes, t'en as parlé. Mais, ça reste déjà, ça valide le truc, quoi. C'est que l'équipe a fait du bon taf et était passionnée, quoi.
Voilà. En tout cas, on voit les défauts. Pour ce qui est de notre avis, nous, on y a pris du plaisir. Après, ce que ça vaut, ça, c'est chacun le verra. Mais
vous êtes grand, vous savez, vous pouvez vous décider vous-même. Hein.
Ouais, si vous avez notre âge, vous êtes très grand. Donc, donc, n'hésitez pas à vous renseigner plus, à mater des trailers, à mater d'autres avis, des walkthroughs, de tout ça. Là, l'épisode est diffusé vendredi, samedi, donc il est sorti il y a quelques jours, au milieu de cette semaine. Nous, on vous conseille d'y jeter un petit œil. Donc voilà pour ce Red Alert. On a été nostalgique, on a été effrayé, on a rigolé, on a parlé de super-héros. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus à écouter Red Alert, ça fait super plaisir. dit, vous avez toujours plus à écouter même les autres formats d'émissions, dont le EX de la semaine dernière, les Centimes, les tout ça, les Serd Song qui seront maintenant diffusés chez 8bit, donc ils sont plus sous le flux de Serd, mais vous pourrez retrouver des sélections musicales. Ouais. Il y a plein de trucs, il y a plein de podcasts, mais il y a aussi plein de livres, Nico.
Et oui, parce que Serd, c'est une maison d'édition qui publie des livres sur la pop culture, jeux vidéo, ciné, séries, mangas. Là, la petite sélection habituelle du jour, c'est ben Silent Hill, parce que le sujet était approprié. Donc, on a ressorti le bouquin Silent Hill dans une nouvelle édition, avec une couverture cartonnée et tout ça. Et pour remercier Shambhala, on lui fait de la pub pour son bouquin sur Death Stranding, en attendant ses prochains travaux chez nous. Donc, n'hésitez pas à acheter nos bouquins, que ce soit en librairie ou sur notre site internet.
Ouais. Donc là, c'est la petite sélection pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube ou Spotify. Si vous aimez la version vidéo de nos podcasts, dites-le nous. C'est pas du attention, hein, des fois les choses quand ça peut des fois s'arrêter. Donc dites-nous si vous appréciez.
C'est vrai que vous êtes immensément plus nombreux à nous écouter à l'audio qu'à nous regarder en vidéo. Donc
vous êtes 250 000 à l'audio, 250 millions à l'audio chaque semaine. Donc il y a un petit delta. Nous on voit qu'il y a un delta. Donc ça demande du taf pour Ken, ça au montage, tout ça. Donc après si on concentre notre effort sur l'audio et que ça suffit. En tout cas, voilà. Si vous aimez les versions vidéo, dites-le nous, et puis on verra après.
Ouais.
Après,
et tu l'as dit, merci pour les commentaires, les pouces et tout. On a vu, j'ai un commentaire de quelqu'un qui nous écoute de Nouvelle-Calédonie. Donc, salut à toi. Tu es bien loin. Tu dois voir meilleur temps que nous, j'espère.
Non, il fait trop beau, regarde. On vous salue encore une fois. On salue toute l'équipe, Ken, Damien et Ludo. On fait la bise à tout le monde. Et c'est l'heure, Nico, de me tourner vers toi. De pas dire au revoir. Tu fais
des signes de gang. Des signes de gang.
Qu'est-ce qui se passe dans Red Alert? Ah, peut-être
c'est que je ne sais pas. Bah, c'est pour ça. J'ai envie de couper maintenant.
Je coupe le coup.
Je n'ai aucune idée.
J'espère pour toi que. Ben non, on a le temps là. On est en début de. On vous dit un secret. On est en début de semaine.
Donc c'est vrai que là, on enregistre plus tôt que d'habitude. Mais pour la semaine prochaine, moi, je ne sais pas encore.
Tu sais pas. Tu joues à quoi là? Alan Wake.
Je joue à Alan Wake. Ouais. Je suis sur ma partie d'Alan Wake et je prends mon temps parce que justement, j'ai pas en parler en chronique, donc je peux un peu y aller à mon rythme.
Et voilà. Et moi, la semaine prochaine, ça sera une chronique anachronique. Justement, comme ça, moi, je suis tranquille. Non, il y a eu de l'actu il y a pas longtemps. Metal Gear Solid. Donc, on sera sur du top 10 all time. Voilà. Donc semaine prochaine, top 10 all time sur Metal Gear Solid. Et puis Nico, il faudra être là la semaine prochaine pour le voir.
Et voilà.
Allez, passez une bonne semaine. Bye bye.